Vous écoutez toujours Delirium Environnemental, le magazine d'information en environnement. C'est toujours possible pour vous d'aller voir sur Internet les sujets desquels on vous parle, les liens desquels on vous parle. Et ça, ça se situe au www.radiodelirium.net.
Si vous voulez aussi recevoir cette information-là par courriel, on fait une cyberlette que vous pouvez recevoir à chaque semaine avec l'émission archivée sur la cyberlette et les différents liens qu'on a utilisés pour vous transmettre cette information vitale à votre survie.
Absolument vitale, oui. Dans ces informations absolument vitales qui circulent un peu tout croche, d'abord, l'invité de cette semaine, et on l'a reçu quand on a enregistré l'émission, mais malheureusement, l'émission a été perdue dans le cyberespace. Vous savez, la technologie, c'est beau, c'est le fun, ça va bien, jusqu'au moment où ça ne marche pas, jusqu'au moment où il y a un virus qui s'installe dans le disque dur, et c'est ce qui s'est produit. Alors, on a perdu M. Éric Darrier de Greenpeace. Si vous le voyez, contactez-nous, s'il vous plaît.
Si vous le voyez passer dans le cyberespace.
Exactement. En tout cas, vraiment désolé, on aurait beaucoup aimé ça que vous entendiez sa belle grosse voix pour qu'il puisse vous parler des OGM, mais on va le faire aujourd'hui, on va vous en parler. Ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce qu'on parle encore d'OGM? Eh bien, parce que c'est encore commercialisé, on en fait encore pousser dans les champs, et puis on comprend encore rien à cette problématique-là. C'est un peu l'impression que ça me donne. Le sondage duquel vous parliez la semaine passée, Nicolas Milo, entre autres, en parlait. C'était clair que les agriculteurs et les vendeurs de semences, etc., avaient pas l'air de saisir ou parlaient pas du tout de la même chose. Mm-hmm. C'est mon impression. Pourquoi est-ce qu'on en reparle? Entre autres, parce que à la fin du mois d'octobre, il y a une vaste coalition de groupes environnementaux, dont Greenpeace, qui a tenu un point de presse devant l'Assemblée nationale. Il a déposé une pétition de 30 000 groupes et individus pour exiger que le gouvernement donne suite aux recommandations unanimes de la Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation sur la sécurité alimentaire au Québec, rapport qui a été rendu public le 11 juin dernier. Ces recommandations ont fait l'objet d'un consensus de l'ensemble des députés de toutes les allégeances politiques siégeant à la CAPA, donc à la Commission sur l'agriculture, les pêcheries et l'alimentation. Elle résulte d'une consultation populaire à laquelle ont participé près de 200 groupes et individus. Donc, le regroupement québécois contre les OGM, qui est cette coalition-là, réclame que les recommandations de la CAPA soient mises en application et que lors d'un débat à l'Assemblée nationale, le gouvernement et notamment la ministre de l'Agriculture, Mme Françoise Gauthier, déposent un échéancier précis de mise en œuvre. Donc, c'est beaucoup autour de l'étiquetage des OGM, parce qu'on se souvient que le parti au pouvoir présentement, qui sont
les libéraux
me semble, j'allais dire les marchands du monde, mais bon, c'est pas ça. Les libéraux refusent de mettre en place un système d'étiquetage des OGM, bien que 87% des Québécois demandent à la ministre d'aller de l'avant avec l'étiquetage. On se souvient que l'opinion publique est fortement favorable. En fait, c'est un peu normal. On aimerait ça pouvoir choisir ce qu'on mange.
Et c'est surtout que c'est une promesse électorale. En fait, c'est la ministre aussi de l'Agriculture en ce moment qui met des bâtons dans les roues, mais ça fait partie du programme et c'était quelque chose qui était mis de l'avant par les libéraux suite aux demandes et aux pressions populaires. Et là, on se retrouve dans une dynamique un peu confuse où est-ce qu'on a un Canada, le ROC, le Rest of Canada, qui n'est pas nécessairement aussi chaud à l'idée d'étiqueter les OGM, tandis qu'ici au Québec, on essaye de proposer des plans d'harmonisation de l'étiquetage avec le programme qui est déjà mis au pied en Europe. Mis sur pied.
Bravo. L'une des choses qui est assez impressionnante avec ce débat-là sur les OGM, d'abord les organismes génétiquement modifiés, c'est qu'on a vraiment l'impression que personne ne parle de la même affaire. On continue, il y a encore plusieurs personnes ici qui nous demandent, par exemple, c'est une question que je me fais souvent poser, dans quoi est-ce qu'il y a des OGM? Mm-hmm. Pourquoi... La question que je trouve la plus étrange, c'est es-tu pour ou contre les OGM? Comme si on pouvait être pour ou contre une technologie, il y a tellement de tenants et aboutissants là-dedans que de restreindre ça à être pour ou contre, c'est un peu peut-être simpliste. Nicolas Mainville, toi qui es notre expert de ces choses-là, de la biologie, peut-être de la biologie moléculaire, qui sait.
N'importe
Bref,
quoi.
Nicolas Mainville, tu nous as monté un petit topo pour essayer de faire la lumière un peu là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est des OGM, puis ça fait combien de temps qu'on en a dans notre environnement?
Je pense que c'est extrêmement important de connaître l'historique, l'apparition des OGM. C'est quelque chose qui est extrêmement récent dans notre évolution humanitaire. Et puis, on se retrouve avec cette nouvelle manne de produits qui font partie de notre vie de tous les jours, puis on connaît pas leur provenance. Donc, premièrement, je vous donne une définition claire et précise de ce qu'est un organisme génétiquement modifié. Un OGM, c'est donc un individu, soit une plante ou un animal, dans lequel l'homme ou la femme, excusez-moi, l'humain a transféré un ou plusieurs gènes étrangers provenant d'une autre espèce. Et ça, c'est extrêmement important. Un gène étranger provenant d'une autre espèce, d'une bactérie ou d'un virus, pour lui attribuer une caractéristique dont la nature ne l'avait pas doté. Mais pour le moment, on transfère seulement un gène à la fois. On n'est pas rendu
des magiciens.
Mais bon, comment que est apparue cette superbe technologie? C'est en 1973 qu'on a fait les premières manipulations génétiques. En fait, c'est des chercheurs américains qui sont parvenus à greffer des gènes étrangers dans une bactérie. Et c'était la bactérie E. coli.
En 80,
il y a plusieurs variétés d'E. coli. Il y a à peu près 10 000 millions de variétés d'E. coli. Mm. Et c'est un chiffre non fondé, mesdames et messieurs. En 1983, donc 10 ans après la première manipulation génétique, eh bien, c'est la première plante génétiquement modifiée qui voit le jour. Donc, on passe de la bactérie à la plante, ce qui est extrêmement beaucoup plus complexe qu'une bactérie. Et puis, on parle d'un plant de tabac qui résiste aux antibiotiques. 3 ans plus tard, premier essai de culture d'une plante transgénique en champ. Non, ça me dit pas c'est quoi la plante comme telle, mais ça se passe en Belgique, en 86. 6 ans plus tard, en 92, autorisation de commercialisation d'OGM aux États-Unis et en Europe.
Mm.
Alors, on passe de la commercialisation. Donc, en 10 ans, on invente quelque chose qu'on connaît pas nécessairement, et puis on y va à tâtons un peu. Puis après ça, bon, on se rend compte qu'il y a certaines propriétés intéressantes du point de vue commercial, et puis voilà, on met ça sur le terrain et on commercialise. En 94, la FDA, donc la Food and Drug Administration des États-Unis, accorde son autorisation de mettre en marché la tomate Flavor Saver. Vous avez probablement entendu parler de cette tomate-là. Elle a été quand même assez populaire. C'est la première plante transgénique de la firme Calgène, qui est maintenant un sous-produit de Monsanto. Monsanto étant la multinationale mondiale qui a le plus de parts dans les OGM. 90% des cultures au Canada proviennent de Monsanto.
Mm-hmm.
C'est le gros joueur en ce moment. Ils ont plusieurs sous-branches. Et puis, ils ont évidemment fait la promotion de leur produit Roundup et les plantes transgéniques Roundup Ready.
C'est ce qu'il faut dire, parce que si tu permets, on a quand même fait le tour un peu de l'invention de la chose jusqu'à sa mise en marché. Peut-être que pour pas décourager les gens, on va ajouter un petit point d'abord.
Oui, je veux juste finir l'évolution parce que ça se passe très vite après ça. Je vous parlais de la mise en marché puis la commercialisation. En fait, c'est en 95 qu'au Canada, les premières cultures transgéniques sont autorisées. Donc en 1995, c'est extrêmement important de le mentionner. Et puis le soya Roundup Ready de Monsanto, c'est en 96 qu'il voit le jour. Pendant ce temps-là, c'est le maïs BT. Vous connaissez le maïs BT qui, supposément, d'ici 2020, va être la culture la plus répandue sur la planète. Donc, maïs BT qui produit son propre insecticide, en fait, le BT. Intéressant à souligner.
C'était pas le maïs génétiquement modifié qui avait eu des impacts sur les monarques?
Ah, peut-être oui. Je sais qu'il y a déjà des problèmes associés avec le pollen, mais je pourrais pas dire exactement.
On va vérifier ça.
On vérifie. Vous savez qu'il y a une convention cadre qui régit la biosécurité dans le monde, et c'est le protocole de Carthagène. Le protocole de Carthagène qui a vraiment eu des débuts un peu douteux.
Oui.
Il est né de 1992, du sommet de Rio, sommet de la Terre. Et puis, Carthagène s'occupe de la biosécurité, et puis il y a eu plusieurs pourparlers. Notamment en 96, ça a commencé en fait en 96 sous l'égide des Nations Unies, et puis en 99 les négociations ont échoué, plusieurs opposants, notamment les États-Unis et le Canada, qui poussent très fort pour que ce protocole-là ne soit pas mis en place, et d'ailleurs n'ont pas ratifié le protocole de Carthagène sur la biosécurité.
Ben, excellent. Merci beaucoup de ce survol historique de l'évolution des organismes génétiquement modifiés. On va revenir et on va continuer peut-être sur l'aspect des risques, parce que là, on a parlé de l'évolution, mais il y a plusieurs risques qui sont associés aux OGM. Il y a plusieurs incertitudes scientifiques, économiques, des facteurs sociaux également, sanitaires. Donc, on reviendra là-dessus et on vous dira aussi plus précisément quels sont les OGM qui sont cultivés ici même au Québec. We'll be right back. est de retour à Delirium Environnemental. On vous parle toujours d'OGM, donc d'organismes génétiquement modifiés. En fait, la grosse question, il y a d'abord autour de l'étiquetage, oui, c'est vrai, mais en amont de ça, si on arrête de faire du bout de tuyau, qu'est-ce qu'on cultive? Les gens se demandent souvent, est-ce qu'on mange des OGM? Est-ce qu'il y en a dans notre alimentation?
Ok, oui.
Et oui, particulièrement si vous mangez des aliments qui ont été transformés par l'industrie. Ce qui pousse comme OGM ici au Canada et en fait au Québec, ça je tire tout ça du mémoire de Greenpeace qui a été déposé là, à la Commission de l'agriculture, des pêches et de l'alimentation. Ça a été déposé le 22 janvier 2004, donc c'est des chiffres de 2004. Dans le cas du maïs, donc au Québec, la situation c'est on a du maïs, du soya transgénique, le très populaire soya, du colza ou du canola, et il n'y a plus de pommes de terre transgéniques, mais il y en a eu. Donc, dans le cas du maïs transgénique, ça représente 85% de toutes les superficies des plantes transgéniques cultivées au Québec. On a enregistré une baisse de la part relative du maïs transgénique de 30% en 1999, à 27% en 2001, ben on sait que l'opinion publique s'est beaucoup mobilisée sur le manque de transparence dans ces dossiers-là. Ensuite, le soya transgénique représente 16% du soya cultivé au Québec, alors qu'aux États-Unis, ce taux est de 63%.
C'est impressionnant de voir l'évolution qu'il y a eu aussi sur les cultures, sur la superficie de cultures transgéniques un peu partout dans le monde. Ça vraiment, en fait, un peu partout dans le monde, c'est surtout au Canada, aux États-Unis et en Argentine, Brésil aussi. D'ailleurs, en 2000, il y a eu la création du groupe de Miami. En fait, c'est les États-Unis, le Canada, l'Argentine, l'Australie, le Chili et l'Uruguay qui se sont mis ensemble pour s'opposer à toute réglementation du commerce des OGM. Donc, vraiment mettre des bâtons dans les roues sur le protocole de Carthagène. Donc, ces pays-là font en ce moment la promotion des OGM et font du cash avec.
Bon, ce qu'il faut savoir, là, c'est que 99% des OGM qui sont produits pour résister à un pesticide qui est habituellement produit par la même compagnie qui produit l'OGM en question. Donc, l'un de ces produits-là, OGM, c'est le maïs Roundup, si je ne me trompe pas.
Bon, en fait, il y a le maïs, mais il y a d'autres choses aussi. Le soya Roundup, c'est...
Le Roundup, c'est le pesticide,
exactement.
En fait.
C'est un herbicide.
Un herbicide au glyphosate.
C'est le glyphosate. C'est l'agent actif qui est produit par Monsanto. Donc, l'idée, c'est d'avoir une plante qui résiste à l'herbicide. Donc, ça tue toutes les plantes autour, sauf la plante résistante au Roundup, c'est-à-dire, dans ce cas-là, le maïs ou le soya. Et puis, évidemment, c'est une belle machine à cash pour la compagnie qui, en plus de s'assurer de toujours avoir les revenus des graines à chaque année, puisqu'ils ont le brevet, les agriculteurs doivent racheter les graines à chaque année, mais en plus, doivent épandre le Roundup qui est produit par Monsanto, donc la même compagnie qui est complètement crampée.
Il y a plusieurs mythes qui circulent autour des OGM. On pensait entre autres que ça serait pour subvenir aux besoins de la faim dans le monde. On s'aperçoit que c'est tout à fait faux, que les compagnies n'ont pas du tout dans l'esprit de nourrir les populations affamées du monde.
Il y a certains projets.
Souvent, les problèmes de faim dans le monde, c'est des problèmes de pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a des pertes alimentaires, il y a des productions alimentaires là-bas, mais ils sont perdus parce qu'ils ne vendent pas à bas prix à leur population affamée. D'une part, on pensait qu'on arrêterait d'utiliser des pesticides et, à le contrario, vraiment,
même
vraiment, vraiment pas le cas.
Même qu'il y a des études montrant l'année passée, en 2003, aux États-Unis, qu'il y a eu une utilisation plus importante de pesticides sur les champs avec OGM que sur les champs sans OGM. Donc, imaginez. Déjà là, c'est incroyable.
C'est déjà incroyable. Un autre point de litige dans ce dossier-là, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'études d'innocuité de ces produits-là sur la santé humaine. Il y a des tests qui ont été faits, bien sûr, sur des rats, des souris, des animaux de laboratoire, etc., comme d'habitude, sauf que sur la santé humaine, pas vraiment. En fait, il y a une étude, une revue de la littérature sur les différentes études sur la santé qui avaient été faites, donc une étude sur les études, qui révélait, on en parlait il y a 2 ou 3 semaines, qu'il y a seulement 10 études qui ont été faites sur les impacts sur la santé des OGM. Et de celles-là, 5 étaient financées par les vendeurs de semences génétiquement modifiées. Donc, ça veut dire qu'il nous reste juste un petit 5 études.
Étrangement, les 5 études provenant de l'industrie disaient qu'il n'y avait aucun effet sur la santé, tandis que les 5 autres études provenant d'instituts indépendants montraient certains effets douteux et sur des courtes périodes. Donc, ce qui laisse présager un effet, mais je pense que c'est vraiment ça qui fait bouger les groupes en ce moment, les groupes de pression, notamment en Europe. L'Europe est extrêmement active sur le dossier des OGM, mais font des pressions, autant point de vue santé humaine, mais santé de l'environnement aussi. Évidemment, on rentre dans tout le dossier de la contamination génétique et de la perte de biodiversité, de l'influence que ces espèces-là, ces super espèces pourraient avoir, super espèces avec des très gros guillemets, pourraient avoir sur les plantes ou les animaux normaux. Mentionnons par exemple les saumons transgéniques qui sont extrêmement agressifs. Donc on a supprimé la période de latence de croissance pour qu'ils poussent plus vite, en fait trois fois plus vite. Mm-hmm. Et on se retrouve avec des dérèglements hormonaux, avec des comportements agressifs et puis une territorialité vraiment différente. Et donc, si on estime la libération de ces animaux-là dans la nature, eh bien, évidemment, il y aura des répercussions. Donc, c'est des inquiétudes qui sont relevées par les groupes un peu partout sur la planète et qui laissent les décisions, encore une fois, aux politiciens, mais la population qui dit, au moins, on veut savoir qu'est-ce qu'on mange,
non,
on veut savoir qu'est-ce qu'il y a.
Non, mais la décision, on laisse la décision aux politiciens. Les politiciens ne sont pas là pour décider, ils sont là pour écouter le peuple et les représenter. Et puis, c'est rare qu'un sujet scientifique, plutôt technoscientifique, on peut-tu mettre ça au clair, fasse autant l'unanimité en termes de désir de la population, simplement d'être informé. Mm-hmm. L'étiquetage, on peut toujours choisir, s'il vous plaît. De toute évidence, c'est un dossier qui est complexe et qui vaudrait la peine d'être encore approfondi longtemps, mais le temps file et nous devrons nous arrêter. Par contre, on va profiter de l'occasion peut-être pour réinviter M. Éric Darrier, qui pourra nous parler peut-être plus concrètement des actions qui sont faites. En attendant, si vous voulez agir puis interpeller vos gouvernements, les pouvoirs publics, pour réclamer votre droit à l'information, parce que c'est le droit à l'information de savoir ce qu'on mange, sur le site de Greenpeace, greenpeace.ca, donc Greenpeace Canada, vous pouvez aller directement dans le dossier OGM et envoyer des lettres, entre autres, à M. Charest, mais à d'autres responsables des pouvoirs publics sur ces enjeux-là.
Allez voir aussi directement sur notre site, il y a la lettre, le lien pour la lettre, donc au www.radiodelirium.net, vous pourrez avoir accès à cette lettre-là et faire des pressions parce que toutes les instances en ce moment sont ouvertes et toute la population est motivée et mobilisée pour que ce dossier-là avance.
Moi, le monde, je veux pas savoir d'où ils viennent, je veux savoir où ils vont. Le monde, ils peuvent être blanc, jaune, noir, mauve, bleu, avec des pitons en orange. M'en calisse. S'ils veulent se battre avec moi, c'est mes frères. Alors, on n'est pas des racistes. Il faut arrêter de toujours s'excuser. Le problème est bien simple. Le Québec, c'est un pays conquis et annexé par la force. T'es conquis par la force des armes en 1760, puis annexé par la force avec l'acte d'union en 1840. La Confédération, c'est juste la suite de l'acte d'union. Donc, le peuple québécois est un peuple soumis, un peuple vassalisé, un peuple inféodé à un autre.
C'est le débat à la part, con qui prend le bateau Canada. Regarde, les chefs de tirant dans nos affaires, vaguement totalitaire.
Le peuple capitaire,
au nom de la nation,
comme attention,
garder une attention constante sur les tensions. La nation va maintenir la pression,
parce qu'une impression,
mettre sa question,
sinon y'a régression.
Vidal de la pression,
même si on se fait chier, chicane de con.
Tous ceux qui s'en sacent, qui vont, qui battent entre les reins de la vague. Viter, léviter, en sécurité, vaincu au spectacle de l'actualité. Comment faire l'épreuve de la réalité? Au royaume des aveugles, les rois sont des contacts. D'avoir la vie en vrac, de vivre on a le crack. Puis pour oublier qu'on s'oublie, on va marcher pour l'Irak. Envergure qu'on enrobe, fierté c'est qui se dérobe. Un peu qui vit en garde-robe quand la moitié est claustrophobe. Au fond, y'a juste pour compte de propino.
Attention, va maintenir la pression.
C'est plus que la pression.
On laisse la question,
non la régression.
Va caler l'agression.
Détale de la muette.
Mais si on se fait chier, chicane de
con.
Si tu l'action.
Pas de chicane dans ma cabane au Canada, c'est comme ça. Ni oui, ni non, mais ni de nous. Mon moumoune est minable, incapable de choisir entre le lisse et le rap. T'es pas parti, pis tu joues pas la partie.
Mais faut que tu rentres, faut que tu sors.
Un pied chaque bord d'apport. C'est le propre d'un crise d'exophore. Quand je vois les stages, je constate qu'on est Québec et Mat. On joue pour le battre en traînant de la patte.
La larme
coule sur ma joue et sonne sur mon tympan. Un pays sans enfants, sans nouveau sens et sans bon sens. On fait plus de flow, mais nous en faut pour tenir le ratio à flot. Nos tags, les petits gars qu'on a, trip sur trip pour à ce point-là. Qu'ils tendent même le globe pour l'ordre de l'homme.
Ils ont des potes du blabla.
Tout trop acide, les kids, j'essaie juste d'être lucide parce qu'être permissible.
Hey, vous venez d'entendre une grande exclusivité du nouvel album de Loco Locas, L'Amour Oral. Je ne sais pas comment ça, que ça
s'appelle
comme ça.
Amour Oral, pas L'Amour Oral.
Ah, Amour Oral. Encore Amour Oral. Et le nom de la pièce, c'était Essence.
Résistance.
C'était tout à fait à propos, puisqu'on vous parlait il y a quelques minutes, des organismes génétiquement modifiés. Hey, c'est déjà la fin, hein, le temps passe vite quand on s'amuse. Fait qu'on se fait un petit coup de cœur, coup de masse, c'est peut-être au calendrier cette semaine.
Eh bien, je me lance avec un coup de masse monumental à la population états-unienne. Malheureusement, nous sommes extrêmement et profondément déçus de l'avènement de ces élections qui nous remettent pour un autre 4 années, mesdames et messieurs, George W. Bush à la tête du pays le plus puissant du monde. Malheureusement, ça a une influence drastique sur notre environnement, autant au Québec qu'au Canada que dans le monde. Les États-Unis étant des grands pollueurs, j'envoie un gros, gros coup de masse à tous ceux et celles qui ont voté pour Bush hier.
Ben, je voudrais pas trop vous déprimer, mais j'enchaîne moi aussi avec un coup de masse, coup de masse, coup de masse, coup de masse à l'administration Charest qui essaie de vendre notre pays. Je sais pas à quoi vous pensez. Moi, vos partenariats publics-privés sur 25 ans, là, ça me fait penser au CAF. Contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier qui ont vidé, qui ont dépouillé nos forêts québécoises, c'est n'importe quoi. Et je vais finir avec un coup de cœur pour l'Ontario, qui l'eût cru! Mais oui, c'est possible. L'Ontario qui a enfin donné les moyens à son ministère de l'Environnement de donner des grosses amendes, puis de suivre les pollueurs et de les poursuivre, et que ça soit aux pollueurs de prouver qu'ils ont fait tout en leur possible pour pas scraper notre belle planète. C'est malheureusement ce qui complète Délirium Environnemental. Délirium Environnemental, c'est une grande équipe, mais aujourd'hui, c'était une équipe réduite. Nicolas Mainville, le guerrier d'aujourd'hui, merci infiniment.
Un plaisir, toujours un plaisir.
Quel plaisir, oui, vraiment. Moi, c'était Sofiane Legendre. Il y avait Étienne Côté-Paluc à la régie de la mise en onde. C'est également lui qui fait notre site Internet au www.radiodelirium.net.
On salue Patrick Bonin, Hugo Lachapelle, Nicolas Milo qui participent à l'émission et qui n'étaient pas là aujourd'hui, mais qui ont fait un travail exceptionnel pour la construction de l'émission.
Comme d'habitude, et on vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle avec le président d'Au Secours qui s'appelle André Boutillier. Donc, en dernière partie d'émission, la semaine prochaine, ce sera André Boutillier. L'autre semaine d'après, on a la chance de recevoir M. Clifford Lincoln. Il va falloir nous écouter pour savoir c'est qui.
Hey, la reine qui a pris position.